Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, ici Stéphane Moïsakis. Je m'invite dans vos esgourdes délicates pour vous parler du nouveau projet de Capture Mag. En fait, comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps de ça, on avait sorti un premier MOOC. C'était le MOOC anniversaire pour les 10 ans de Capture Mag. Et cette fois, en fait, on relance un autre projet papier, un nouveau MOOC qu'on espère un peu plus récurrent, en fait, qui serait pour moi en tout cas le nouveau MOOC numéro 1, si le premier précédent était le MOOC anniversaire, voilà. Et c'est un MOOC qui sera consacré à William Friedkin, à la carrière de William Friedkin. Il y aura déjà 3 grosses interviews, en fait, de William Friedkin. Ce sont des interviews complètement exclusives, en fait, que vous n'avez lues nulle part ailleurs. Et à côté de ça, en fait, il y a une section, on appelle ça le magazine Capture Mag, avec des nouvelles plumes comme Sandra Benedetti, Melvin Z qui vient nous parler de Furiosa. Les précommandes viennent de commencer, donc en fait pour vous c'est le moyen d'obtenir le magazine déjà un petit peu en avance, c'est-à-dire par rapport à sa sortie en librairie quoi. Pour nous, l'avantage de cette campagne en fait c'est que vous achetez directement le produit au producteur, donc c'est une manière en fait de gagner un petit peu plus de bénéfices, de pouvoir se rembourser. C'est un MOOC dans la lignée du précédent, c'est un beau produit à nos yeux, en fait, un peu notre idée de ce qu'on aimerait en fait voir dans les librairies, dans les kiosques. On espère que ça vous plaira et pour en faire plusieurs autres après. Voilà, vous avez toutes les infos, la balle est dans votre camp, donc merci pour votre soutien et à bientôt sur Capture Mag.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Arnaud Bordas, ici présent, encore une fois. Salut Arnaud.
Ouais, ça y est, je reviens toutes les semaines maintenant.
Voilà, toutes les semaines, je ne sais pas, hein. c'est tout ça, c'est, voilà, c'est, comment dire,
un
c'est
peu dilaté
éparpillé
dans le
un peu, voilà, dans le temps pour qu'on puisse profiter de ta belle présence, n'est-ce pas?
Ouais.
Tu vois et comme on fait les choses quand même bien, après avoir, torpillé Stéroïdes, en parlant d'un film qui a torpillé la carrière de leurs auteurs avec Grimsby, ce soir on est un peu plus dans le ton et on va parler de Charles Bronson quoi.
Voilà.
Notre ami Charles Bronson.
Voilà. Très émouvant parce que enfin notre amitié est partie de là, hein, Stéphane. Hein,
c'est vrai.
Quelque part. Bah je ne sais pas, mais enfin le jour où l'un des deux a parlé de Bronson, l'autre a levé un sourcil comme ça, comment ça
t'as... Je suis pas
mon Bronson bro quoi. T'as...
Voilà, bien sûr, mais j'adore évidemment Charles Bronson. Je ne suis pas autant fan de Charles Bronson que toi. Voilà, Charles Bronson, ça t'a quand même pas mal défini hein, à cette époque-là, quoi. Mm. En plus, on s'est connus peu de temps finalement avant sa disparition. Mm. Hein, c'était 1 ou 2 ans avant, quoi. Mm. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis bon. Toi aussi, évidemment, tu adores Clint Eastwood. C'est vrai que moi, je suis un peu plus Clint. Et toi, t'es peut-être un peu plus Bronson.
Non,
voilà.
Non, je ne me risquerai pas à essayer d'établir une hiérarchie entre les deux. Là,
et ouais, oh bah moi, j'en mets une toute petite sur Clint, mais parce que c'est Clint.
Après, il y en a un qui est cinéaste et l'autre non.
Oui, voilà.
Il y a des différences, hein, toi, mais bon.
Bref. Donc, Charles Bronson, et on va parler de The Mechanic, c'est-à-dire Le Flingueur en français. Mm. Un film qu'on a revu donc, pour l'occasion et que tu vas nous pitcher.
Mm. Voilà. Alors, The Mechanic, donc Le Flingueur, comme tu l'as très bien dit, c'est un film de 1972. C'est
Michael Winner.
De Michael Winner, qui est leur deuxième collaboration à Bronson et lui, juste après, parce que je crois qu'il date de la même année, le western Les Collines de la Terreur. Mm-hmm. Et donc, c'est un film qui raconte l'histoire. Bronson, il joue le rôle d'un tueur professionnel. Assez méthodique, assez efficace, on va dire, et très discret en même temps, puisque son rôle consiste à tuer des gens sans qu'on puisse après établir
qu'il y ait ça de manière accidentelle.
Voilà, d'établir que c'était un meurtre. Et donc voilà, c'est un gros professionnel qui fait partie d'une organisation criminelle qui fait appel à ses services, une sorte de prestataire, quoi, de luxe. Qui opère pour cette organisation secrète dont on ne saura jamais trop grand chose, hein. On en voit le chef à un moment du film, mais c'est tout. Et en fait, dans un de ses contrats au début du film, il tue un type qui est son ami, mais qui l'a fréquenté en dehors du boulot. Mais on lui demande de le tuer, et donc comme c'est un personnage qui dont toute la vie se définit uniquement par rapport à son métier et où aucune attache affective, émotionnelle ou tout simplement humaine ne doit venir interférer dans l'exécution de son travail. C'est une règle qui s'est fixée et c'est la règle que fixe l'organisation qui l'emploie. Il tue cet homme, mais cet homme a un fils et c'est jamais explicité en tant que tel, mais peut-être pour racheter ce qu'il a fait avec son père, il va former ce jeune à son métier, quoi. Et en faisant ça, il va déroger à une règle puisqu'il ne prévient pas l'organisation de ça. Et le film va suivre donc la formation de ce jeune élève qui est incarné par Ian Michael Vincent. Un petit peu la relation de maître à élève, la relation de rivalité un petit peu entre les deux personnages, tout en posant clairement le fait que Bronson, en faisant ça, en essayant de transmettre quelque chose, de laisser un héritage, va contrevenir à l'une des règles principales qui motivait son emploi par cette fameuse organisation, qui est de ne surtout pas prendre d'initiative, surtout sans les prévenir, tu vois, tout ça. Voilà. Donc en gros, c'est ça l'histoire.
On est quand même dans un trope de film d'action assez classique.
Ouais.
On peut dire, c'est-à-dire qu'en gros, des histoires de maîtres et d'élèves, en fait, il y en a pas mal. Hein. C'est un truc qui revient assez régulièrement dans le cinéma d'action, quoi. Ce qui est assez, évidemment, ce qui donne un peu pour nous hein, l'envie d'aller voir ça, c'est que c'est la collaboration entre Winner et Bronson, quoi. Ça, de l'extérieur, hein, moi, en revoyant le film, en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point. Finalement, même si c'est un film d'action avec des scènes d'action, hein, c'est aussi une énorme étude de caractère, ce qu'on t'attendrait pas forcément. Enfin, c'est pas la répute, on va dire, de Michael Winner ni de Bronson d'ailleurs. Et pourtant, c'est clairement là. C'est clairement le cas.
Après, il a touché un peu à tout, hein, Michael Winner. Mais...
Oui, mais bon, on va dire que le gars, il est réputé. On va dire que s'il y a quelque chose qui reste de sa réputation, c'est un justicier dans la ville, et pas forcément en plus le premier. Mais plus en fait l'aspect un peu crapoteux et dégénéré des suites, quoi, et le côté un peu j'allais sur les plateaux de télé en assumant totalement ce que je faisais, quoi, donc voilà. Et
c'était un personnage en couleur, hein,
ouais,
pour
bien
un provocateur,
sûr,
hein.
Cinéaste anglais. Et donc là, oui, c'est un film qui est finalement assez étonnamment à la revoyure, en fait, assez subtil, quoi. Alors, on savait qu'il y avait quand même déjà quelques scènes, hein, il y en a une très marquante avec Jill Ireland, hein, la femme de Charles Bronson, quoi. Mais en fait, au-delà de ça, il y en a d'autres, en fait, qui sont hyper bien vues, hyper fines, je trouve même.
C'est-à-dire, c'est une période de la carrière de Bronson où il y a des films très étonnants. Ça n'est pas encore, il s'apprête à devenir la véritable star internationale qui va devenir avec Death Wish, avec un justicier dans la ville du même Michael Winner. Mais à cette époque-là, on va dire que il y a eu la période où il a commencé à émerger de grands seconds rôles dans des films prestigieux type Les Sept Mercenaires ou Les Douze Salopards. Il y a eu sa carrière en Europe, hein, qui a donné quand même. Il était une fois dans l'Ouest. On peut citer de la violence aussi de Sergio Solima. Ah ouais. Voilà. Donc il commence à Le Passager de la pluie aussi de René Clément. Il commence à avoir une certaine aura, quoi, typée un peu européenne, donc un peu plus sophistiquée que l'aura qu'il pouvait avoir à Hollywood, qui était un peu plus monolithique. Et The Mechanic est assez symptomatique de tout ça, quoi. Résume un peu tout ça, quoi. Il y a un peu tout ça dedans, quoi. Il y a le Bronson monolithique, il y a le Bronson un peu plus subtil aussi. Je le disais, c'était juste après Les Collines de la Terreur, hein, leur première collaboration avec Michael Winner, qui est un film de vengeance western ultra violent, quoi, avec un rôle assez difficile, hein. Bronson se trimballe pendant tout le film à moitié à poil, quoi. Et donc, Il a beaucoup aimé cette collaboration avec Michael Winner, Bronson, et il va progressivement s'acoquiner avec eux. Ils sont devenus amis. Hein, c'était vraiment et Bronson, Michael Winner, qui était encore une fois un personnage à multifacettes, très étonnant, à la fois mondain, provocateur, tout ça. On reparlait souvent en disant qu'il y avait eu une vraie relation d'amitié entre les deux et que Bronson était un des rares, enfin Michael Winner était une des rares personnes que Bronson appelait régulièrement au téléphone, quoi. Donc voilà, il y avait une collaboration professionnelle et une relation d'amitié qui va se développer sur le long terme, même s'ils auront des accroches par la suite et notamment dans le la manière dont Winner va donner un tour un peu spécial à la saga du justicier dans la ville, où Bronson était de plus en plus miné par l'étalage de violence de cette saga, tout ça.
Il avait détesté Deathwish 3.
Ouais. Mais même, il avait des problèmes avec Deathwish 2 aussi. Hein. Tu vois, c'était. Ils ont.
À la limite, t'as envie de dire Deathwish 2, alors, artistiquement parlant, tout est discutable, hein, est beaucoup plus, moi, je trouve, violent et hardcore que le 3. Le 3, c'est une bande dessinée, c'est n'importe quoi. Book, hein. On en fera un épisode, hein, je vois. Mais voilà.
Mais disons, à cette période-là, il va y avoir un peu un froid dans la relation, justement, à cause de ça, quoi. Mais là, on est au début des années 70, les deux personnages s'entendent à merveille. Donc, c'est un projet initié par les producteurs Erwin Winkler et Robert Chartoff. Les producteurs de Rocky, hein, qui vont signer cet énorme carton quelques années après, hein, 3 ans après à peine. Et donc leur idée, c'est de faire un film sur un tueur comme ça, mais qui a un côté un petit peu James Bond aussi. C'est vrai que t'as l'affiche originale là qui est magnifique, où tu vois Bronson en silhouette comme ça sur le côté, et à côté t'as des vignettes très l'affiche fait vraiment penser à une affiche de James Bond. Il manque une James Bond girl à côté de Bronson, où t'as des vignettes comme ça qui récapitulent les grandes scènes d'action du film de manière un petit peu mensongère aussi, quoi, parce que t'as une scène en hors-bord, t'as une scène avec des plongeurs sous-marins, t'as une scène de cascade à moto le long du
fait. Elles y sont dans les scènes,
mais c'est
pas des scènes d'action à la James Bond.
Ouais, et puis quand tu regardes le détail de la scène telle qu'elle est traitée dans les vignettes, c'est un petit peu exagéré. Mais donc l'idée, c'était ça. Mais il y avait aussi cette idée-là. On est encore une fois au début des années 70 à Hollywood. Il y a une certaine liberté de ton, il y a une certaine influence qui va être de plus en plus marquée venant du cinéma européen. Et donc il y a cette volonté de monter un film, on va dire, non pas un télo, hein, mais avec certaines, comme tu l'as souligné, le côté étude de caractère.
C'est-à-dire que même dans la présentation, il y a un truc qui est quand même assez fou, c'est que déjà la première scène en fait du film, c'est une scène muette d'un quart d'heure. Alors pas muette, c'est muet parce qu'il ne parle pas en fait, et voilà, mais il y a du son, hein, dans la scène, il y a même des bruits d'ambiance et des choses comme ça, mais c'est Bronson en fait, en gros, qui est en train de mettre en place, comment dire, il a sa cible, c'est-à-dire c'est dans un dossier, il a les photos en fait de sa cible, quoi. Il se poste dans un appartement en face, il regarde un peu comment sa cible fonctionne, il attend qu'elle s'en aille. Et en fait, il va, tu sais pas exactement ce qu'il fait au tout début, mais en fait, il vient, il remplace par exemple les sachets de thé par d'autres sachets de thé, tu vois.
Ouais, c'est très long.
Ça, il prend son temps et en fait, c'est assez méthodique et tout. Tu vois qu'il met en fait une espèce d'acide sulfurique pour comment dire, rompre les câbles du gaz, quoi, les tuyaux de gaz et tout. Il met un espèce de plastique, en fait. Là, on est dans les années 70, donc on sait pas forcément ce que c'est, en fait, quand tu réfléchis à tout ça. Depuis, ça a été surutilisé, en fait, ces éléments-là. Mais un élément de plastique, en fait, ces quatre dans un bouquin, il le cache, quoi, et en gros, si tu veux, il retourne chez lui et il attend que sa victime en fait vienne
retourne dans la chambre d'hôtel qu'il a louée juste en face,
et utilise tout ça, c'est-à-dire qu'en fait le sachet de thé, tu comprends que c'est pour qu'il s'endorme, c'est-à-dire il lui a mis des somnifères dedans, quoi. L'acide sulfurique, c'est pour rompre le gaz, et qu'il y ait des fuites de gaz, quoi. Et le C4 dans le livre, c'est pour faire en fait exploser avec un tir de sniper, la chambre
au contact du gaz,
pour qu'on croie que c'est un accident de gaz, en fait. Voilà.
Alors c'est une scène étonnante, hein. C'est vrai que
un quart d'heure
sans un seul dialogue. Il y a juste au début, je crois, Bronson, quand il rentre dans le petit hôtel miteux,
il dit
bonjour, et c'est le seul mot qu'on va entendre pendant 15 minutes, quoi. Mais il y a pas de dialogue.
On entend un petit peu la radio, mais il y a pas de dialogue.
Moi je parle dans les dialogues. C'est juste un mot, tu vois, il y a pas de réponse en face ou avant, tu vois.
Tout est raconté par la mise en scène, en fait.
Voilà, alors pour le coup, ça c'est une scène d'action un petit peu comportementaliste, tu vois, où on observe juste, on définit le personnage par ce qu'il fait, quoi. Ça pour le coup, c'est des trucs déjà vus.
C'est extrêmement bien fait, quoi.
Moi, ouais, je trouve, c'est très très bien fait. Mais c'est un truc déjà vu à l'époque chez des mecs comme Don Siegel ou Sam Peckinpah, qui aiment bien faire ça, tu vois.
Et je pense que cette scène d'ouverture, c'est la référence de Fincher dans The Killer. De le film qui est sorti sur Netflix avec Michael Fassbender.
Mais alors c'est vrai que ce que je disais par rapport à la sensibilité un petit peu européenne du film, ils sont allés chercher un scénariste qui s'appelle Lewis John Carlino, qui est un scénariste qui est pas forcément réputé pour des gros films d'action, des trucs comme ça. Bon, bah, précédemment il avait fait le thriller Parano qui est excellent de John Frankenheimer, l'Opération Diabolique.
Seconds.
Par la suite, il fera.
C'est pareil, en fait, un film extrêmement, cérébral, quoi.
Ouais. Et par la suite, il fera des films un petit peu autorisants. Je sais que je me rappelle dans les années 80, là, au même moment que le gothique de Ken Russell, il avait fait un film qui traitait le même sujet, là, sur la création, l'écriture de Frankenstein par Mary Shelley. Ça s'appelait Un été en enfer, je crois, d'Ivan Passer. Ça c'était en 88, voilà. Bon, c'est un gars qui n'était pas forcément réputé pour le genre de film auquel appartient The Mechanic à la base. Et alors le scénario qu'il avait, c'est quand même un point important à souligner, hein, le scénario qu'il avait écrit à la base était un scénario qui décrivait une relation homosexuelle
entre les deux personnages, entre Bronson et le personnage de Ian Michael Vincent.
Voilà, tout à fait, entre le jeune et le vieux, quoi. C'est un film qui a été qui est passé en différentes mains en attendant celle de Michael Winner et de Charles Bronson. Il y avait Monte Hellman qui a le metteur en scène de Two Lane Blacktop là, dont je ne me souviens plus le titre français, qui avait travaillé dessus. Il y a eu au casting dans le rôle du jeune, ça devait être Jeff Bridges qui était très jeune à l'époque, hein, qui venait de tourner qui allait tourner le canardeur de Chimino
dans le rôle Fat City plutôt, il venait de tourner, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais, avec Stacy Keach, John Huston, et il y avait Burt Lancaster, je crois, dans le rôle du vieux. Il y en a eu plusieurs, hein, comme ça le casting a pas mal changé, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a eu quelques gros stars impliquées dans le rôle de Bronson qui ont fait que peu à peu, c'est pas forcément qu'avec l'arrivée de Bronson, mais je crois que peu à peu l'histoire de l'homosexualité a été peu à peu effacée. Alors,
toi, tu considères qu'il en reste des bribes?
Bah, c'est-à-dire, en sachant effectivement l'historique du film, tu peux voir le film en lisant entre les lignes ou entre les images cette thématique-là. Tu vois, il y a même des clins d'œil assez.
Après, est-ce que ce n'est pas un petit peu l'une des thématiques souvent sous-jacentes, en fait, des alors c'est pas un buddy movie en l'occurrence, hein, mais des buddy movies ou des choses, des films comme ça où il y a une relation toujours, en fait, dans un film d'action. Entre deux hommes, il y a toujours une espèce de sous-entendu homosexuel.
Possiblement, ouais. Il y a même à une époque, je me rappelle dans les années 80, certains critiques qui ont fait tourner ça un petit peu au procédé, quoi. C'était systématique, l'interprétation.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que dans The Mechanic, dans le Flingueur, t'as quand même des scènes, des regards entre Bronson et Ian Michael Vincent. T'as une scène.
Sourire.
Ouais, des sourires.
Ouais, ouais.
À un moment, carrément, ils partent, alors que la scène est assez gratuite, hein, en tant que telle, à l'intérieur de la narration, mais Bronson l'initie à faire de l'aviation. Bon, le vol étant un petit peu le truc symbolique de l'acte sexuel, quoi, tu vois, il lui propose même de « vas-y, maintenant, tu prends le manche », tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça peut sourire quand tu vois le film, parce que tu te dis, c'est vraisemblablement des restes de ce qu'il y avait du scénario original, quoi.
C'est-à-dire que le truc, c'est que quand tu regardes ce film, enfin, quand tu regardes ça, parce que là, on saute un petit peu vite en besogne, et le truc, si tu veux, on va un petit peu vite en besogne, et le truc, si tu veux, c'est que t'as quand même la scène d'après, la scène justement qu'on a décrite, qui est la scène d'ouverture, hein. En fait, il y a la scène quasi obligatoire d'apparition de Jill Ireland, hein, qui est pour le coup vraiment une apparition, c'est une seule scène, parce qu'il faut savoir que c'était sa femme, donc, à l'époque, et qu'il la mettait dans tous les films, hein. Il demandait, en fait, à ce qu'elle soit vraiment présente à chaque fois, elle venait, elle l'accompagnait sur les tournages, etc., etc., et elle disait de lui, d'ailleurs, que c'était... Elle savait, en fait, que c'était un acteur extrêmement sensible, ce qui n'était pas du tout la réputation de Bronson, hein, à cette époque-là, quoi. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, en vrai. Mais voilà, apparemment, c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité et qui cache bien derrière, effectivement, un espèce de monolithisme.
Juste une petite parenthèse, c'est pour dire que, en fait, ça a été toute la carrière de Bronson, à partir d'à peu près des années 60. Je veux dire, les 7 mercenaires, c'est le rôle le plus émouvant du film.
Oui, oui, bien sûr. Mais,
donc
mais...
il y a toujours eu cette enveloppe très rude dans laquelle on allait chercher le...
Et tout le monde le faisait pas forcément. Mais en tout cas, le truc, c'est que, en l'occurrence, en fait, ce qui était très intéressant dans cette scène, c'est que donc c'est une scène où il se pose comme un macho, comment dire, clair, net et précis, qui rentre au bercail ou qui retourne voir sa compagne, quoi. Qui, comment dire, lui saute dans les bras, lui déclame son amour dans un poème, passionnée. Elle lui-même la rejette un petit peu il lui dit même, je viens d'arriver, ça fait 3 minutes, il y a 3 réprimandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu me manques tellement, mon amour. Enfin bref, t'as tout un jeu comme ça dont on pourrait se croire dans Parole de flic, en fait, si tu veux, si tu poussais un tout petit peu le truc, quoi, tu vois. Tout ça pour qu'en fait, il y ait une chute à cette scène, mais complètement inattendue, et je trouve hyper forte, quoi, qui définit, c'est en ça que je parle d'études de caractère, mais c'est pas la seule, hein, qui est très forte, c'est qu'en fait, il s'avère que c'est une call girl, c'est une prostituée. Et que Bronson, donc tu comprends que Bronson la paye.
Parce qu'il n'a pas de vie sociale.
Parce que même probablement il est un tout petit peu. Il y a un risque d'émasculation du personnage quand tu présentes une scène comme ça. Et moi, je trouve que ce qui est très très fort, c'est que tu peux te mettre à dos les fans de cinéma d'action, tu peux te mettre, etc. Tu
l'es Bronson, Stéphane ?
Non, mais justement, t'as un risque. En fait, t'as un risque. Mais attends, en fait, c'est important ce que je dis parce que le truc, c'est que
c'est
pas réel. Enfin, ça n'existe. Enfin, c'est un cas assez peu répandu. Dans le cinéma d'action, on taille quand même assez souvent, et je veux dire, les critiques de l'époque ne se gênaient pas, en fait, sur le machisme, en fait, de Bronson, de Clint et tout ça, etc., etc. Et c'est des gens qui ont jamais, rechigné à jouer justement avec cette image et à la casser. L'image de Clint Eastwood dans Dirty Harry, elle en prend pour son grade, en fait, dans l'épreuve de force, hein. Je veux dire, c'est quand même un personnage qui passe son temps à être un peu con sur les bords, tu vois. Comment dire? Et en fait, c'est la nana qui arrête pas de lui dire, mais t'es complètement con, tu vois pas qu'ils essayent de te baiser, tu vois pas, etc., etc. Et là, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'égratigner, en fait, le monolithe, quoi, Bronson, pour, en fait, justement, en faire ressortir une espèce d'étude de caractère où tu te dis, c'est pas seulement que le personnage est seul. C'est que peut-être, en fait, si tu veux, qu'il a des troubles sexuels, en fait, un peu plus prononcés, quoi. Donc, en fait, c'est assez étonnant. Et quand tu racontes ça, et que tu le mets en exergue avec l'idée que c'était potentiellement un film, comment dire, sur une relation homosexuelle, c'est très intéressant. Il y a quand même.
Et d'autant plus que la scène, quand on le découvre pour la première fois, on ressent peut-être le truc, on le sent venir, il y a des trucs un peu bizarres, tu vois, et puis finalement, t'as la touche finale qui est très émotionnelle, quoi, tu vois, quand il s'en va et qu'on comprend que c'est une prostituée. Mais toute la scène pue le fake, tu vois.
Quand tu le revois,
en sachant ça, tu vois. Je veux dire, t'as clairement, par exemple, le mur du studio de la nana, ou de la chambre d'hôtel, non, c'est un studio, je crois, c'est un appartement, et tapissé d'affiches de films, tu vois, ouais. Donc de trucs qui relèvent d'un univers du spectacle, tu vois. Le monologue de la lettre, la lettre, quand elle la récite, il est clairement récité comme un monologue de théâtre, quoi, tu vois, elle est en représentation. Donc t'as tout ce truc qui relève un petit peu du faux et de la manière dont, effectivement, on peut lire ça à l'aune de la carrière de pas mal d'acteurs homosexuels honteux. Qui ont monté des histoires avec des nanas pour la communication, pour les médias.
Oui, moi, j'allais pas forcément jusque là, mais
tu peux le lire dans ce sens-là aussi.
Hudson ou des trucs comme ça, tu veux dire, avec Cary Grant. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'allais pas forcément jusque là. Je me cantonne vraiment à l'image de Bronson, si tu veux, et à cette image, encore une fois, d'ultra virilité. Je veux dire, il y a un documentaire en fait qui est passé sur Arte sur Bronson, où c'est le mâle, tu vois. Enfin, en gros, ils mettent le mot mâle, en gros, dominant ou je sais pas quoi dans le titre, tu vois. Donc c'est quand même l'image du gars, et je pense en fait que c'est un poil plus subtil que ça. Je veux dire, y compris pour lui. Y compris dans sa façon justement de jouer avec cette image là, quoi. D'ailleurs, je pense que ça aurait été vraiment, moi j'aime beaucoup, hein, Le Flingueur, je trouve c'est un super film et tout, vraiment, hein, en le revoyant en plus comme ça, je me suis vraiment dit putain, mais c'est à part, je trouve, la fin qui est un peu expédiée, mais vraiment le dernier quart d'heure, on va dire, les 10 dernières minutes, quoi, même s'il y a des super trucs dedans, hein,
qui est typique de cette époque là, hein,
je parlais pas vraiment de la touche finale, on y reviendra, mais vraiment en fait plus la façon dont le récit finalement reprend le dessus par rapport à l'étude de caractère. C'est ça je trouve que c'est pas hyper bien géré dans le film, quoi. Mais c'est pas très grave, et je pense en fait que justement c'est dans ces moments-là que tout le sous-texte dont tu parles, c'est-à-dire vraiment le côté, comment dire, homosexualité latente, en fait, manque. Parce que je pense que ça aurait vraiment décuplé tout un tas de choses, c'est-à-dire, bon, on spoil hein, le film, hein, évidemment, mais les trahisons qui vont venir, comment dire, certaines séquences, en fait, assez étranges. Hein. Il y a cette scène, notamment, où, en gros, Bronson suit le personnage de Ian Michael Vincent après la mort de son père. Et en gros, il se retrouve à aller voir une jeune hippie qui s'appelle Louise et qui lui dit « Je vais me tuer si tu viens pas me voir » ou je sais pas quoi. Et qu'en fait, il y a un espèce de jeu entre Ian Michael Vincent, Bronson et la comment dire, la hippie, dans l'idée de la laisser s'ouvrir les veines, quoi. Et en fait, ça dévoile énormément le fonctionnement des personnages, quoi. Et tout ça, en fait, c'est assez, comment dire, encore une fois, c'est assez étonnant parce que c'est une scène hyper troublante, hyper, comment dire, on te présente quand même deux personnages qui ont une, en fait, totalement déshumanisés, qui jouent, en fait, qui se parlent entre eux, et c'est comme si la fille, enfin, ce qu'elle fait est important pour eux dans la séquence, puisque ça révèle leur caractère à eux deux, mais en gros, c'est comme si elle était pas là, quoi. En fait, puisque en fait, ça ne joue que sur eux deux, quoi. Et là, effectivement, dans ces moments-là, tu te dis oui, avec une sous-intrigue sur une homosexualité potentielle, en fait, des deux personnages, ça aurait pu être effectivement assez encore plus fort, encore décuplé, encore tout ce qu'on peut retenir du film, quoi. Donc, voilà, c'est assez.
Il y a une petite anecdote assez marrante parce que Linda Ridgway, l'actrice qui joue cette hippie, là. Qui a d'ailleurs fait partie plus récemment des accusatrices de Bill Cosby, ouais. Quand Bill Cosby a connu de ses ennuis là, pour des histoires de viol récemment, enfin ces dernières années. En fait, à l'époque, c'est quand même relativement récent parce que je crois que c'était dans les années 2010, Michael Winner était encore vivant. Et il y avait eu une projection du film à la Cinémathèque américaine. À Los Angeles. Et Michael Winner était venu faire le show, comme il sait si bien le faire, parce que c'était carrément des stand-up, hein, ces présentations de films. Et en fait, il y a un truc assez touchant, parce que c'est vrai qu'on le décrit souvent comme un type qui avait un comportement un peu de salopard sur les tournages, des trucs comme ça, où ça pouvait lui arriver, quoi. Mais en fait, ce soir-là, l'actrice, donc c'était bien longtemps après le tournage du film.
Hein, 40 ans après. Hein.
Ouais, l'actrice Linda Ridgway était là et elle était venue avec toute sa famille. Et à un moment, en fait, dans le public, elle a levé la main et elle a dit « Je suis l'actrice qui joue Louise, la petite hippie et tout. » Et Michael Winner, en fait, l'a fait descendre sur scène et il dit « Mais qu'est-ce que tu es devenue et tout. » Ils ont entamé un dialogue comme ça, une sorte d'aparté à l'intérieur de la présentation de ce film qui était assez étonnante. Enfin bon, bref, c'était pour la petite anecdote autour du personnage de Michael Winner. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, il y a aussi le fait que par rapport au scénario d'origine, je pense, et ce qu'il en reste, en tout cas à l'écran, il est évident que Matt Bronson dans ce rôle-là, ce qui n'était pas forcément le cas sur le papier, hein, puisque le film n'a pas été écrit pour lui, ça teintait le film, je pense, d'une couleur très intéressante, quoi. Tu vois, que peut-être le scénariste n'avait pas envisagé à la base, quoi. Mais du coup, oui, quand tu sais, encore une fois, quand tu sais ce qu'était le scénario d'origine, je pense que tu revois le film régulièrement. Enfin, moi, ça m'est arrivé l'autre jour, là, quand je l'ai revu. De le revoir à l'aune de cette information et de se dire « Ah oui, tiens, effectivement. Ouais, » voilà. Et peut-être, effectivement, s'il y avait eu une histoire d'amour au milieu entre les deux personnages, ça aurait peut-être été plus fort. Mais bon, ils ont choisi... Et d'ailleurs, après, dans le film...
Étonnant, surtout. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que, en fait, même si tu vends le film comme un film d'action, c'est quand même étonnant d'avoir ça au milieu, quoi.
Mais par exemple, à mon avis, la séquence de la prostituée, elle n'y était pas. Je ne l'ai pas vu, le scénario d'origine, mais à mon avis, elle n'y était pas, tu vois. T'as plusieurs fois, enfin, une ou deux fois, il est bien mentionné que Ian Michael Vincent, son père le dit, je crois, c'est un coureur de nanas. Il adore les nanas, tu vois. Donc, tu sens que tout ça, ça a été rajouté pour bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Sauf que si tu sais ce qui s'est passé, il y a quand même y a des scènes qui font sourire, quoi.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a ça, et puis il y a quand même de l'ambiguïté dans le sens où, de toute façon, le personnage de Ian Michael Vincent est ambigu. C'est-à-dire qu'il a, il déteste son père. Je veux dire, il est dans une...
Il a une relation conflictuelle au père. Hein.
Ouais, voilà. Donc en fait, bon, ça teinte évidemment sa relation avec le personnage de Bronson. Il y a aussi, en fait, l'idée... comment dire, bah voilà, en fait, on met les pieds dans le plat, hein, de la trahison, quoi. C'est-à-dire que, parce que c'est comme ça que le film avance, quoi. Et en fait, ça, cette trahison-là, en gros, il est clairement établi que, en fait, parce que Bronson lui pose la question, en fait, c'est-à-dire qu'à la fin, alors, ils ont un contrat, comment dire, à mener à Naples, en Italie.
Non, mais alors là, c'est pareil aussi, t'as cette petite scène de resto là, romantique au bord de la mer, ouais, avec le guitariste de restaurant qui chante de l'opéra italien, et puis tous les deux qui sont en train de déguster un bon verre de vin, ouais, en tête, ouais, à tête.
Bien sûr, ouais. Oui, mais parce que je pense qu'il y a tout un, en fait, il y a tout un espèce de signe extérieur de richesse aussi dans le film qui joue avec ça. C'est-à-dire, tu parlais de James Bond, la réalité c'est que c'est un film californien, le film, hein, à part la scène d'ouverture qui se passe sur la côte est, quoi. En fait, t'as tout le reste du film, en fait, c'est un film entre guillemets ensoleillé, mais un film ensoleillé qui se passe dans les villas de Malibu, dans les comment dire, les maisons sur pilotis, dans tout ce luxe californien, tu vois. Et je pense, en fait, si tu veux,
t'as la demeure de Bronson, hein, qui est une demeure de vrai personnage du James Bond, avec des bibliothèques coulissantes pour dévoiler des écrans.
Ouais, ouais.
Lui, s'y trimballe avec sa robe de chambre en soie et sa pipe. Il y a une reproduction du jardin des délices de Bosch gigantesque.
Ouais,
il
ouais.
y a un côté luxe comme ça.
Et ça, c'est pareil. En fait, tu vois, quand justement, en fait, il comment dire, il fait des gros plans, en fait, sur ce tableau. Tu vois, c'est pareil, c'est un espèce de truc en fait que t'as pas l'habitude de voir dans un film de cet acabit, quoi. C'est-à-dire, en fait, vraiment un espèce de truc où Bronson se pose tout un tas de questions, et en fait le réalisateur figure ça en fait de manière hyper comment dire allégorique, en fait, avec des gros plans de ce tableau, quoi.
Bah, c'est le jardin des délices, hein. C'est un triptyque, ouais, en fait, qui te décrit la destinée humaine, avec la première partie, c'est le jardin d'Éden. Avec Adam et Ève. La deuxième partie, c'est je sais plus, bah c'est le monde, je crois, quoi. Et puis la troisième partie, c'est l'enfer, quoi. Donc c'est plus ou moins la trajectoire du personnage à l'aune du film aussi.
Bien,
quoi,
sûr, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que encore une fois, tu vois, je veux dire, on parle de Michael Winner, le réalisateur de Death Wish 3, tu vois, je veux dire, c'est un peu ça son comment dire, pour l'instant, sur son.
Ouais, mais encore une fois, c'est un type.
Non, mais on est d'accord, toi et moi, on sait, mais c'est ce que je dis, en fait.
Très aborder des univers très différents, parfois très sophistiqués. Il avait fait un remake, moi, à mon sens, complètement raté. Pas un remake, mais une sorte de suite préquelle des Innocents, dont j'ai oublié le titre là, mais avec Marlon Brando, qui était très psychologisante, tu vois. C'était vraiment quelqu'un. Il a fait des Hercule Poirot, tu vois. C'était quelqu'un qui était capable un peu d'aller vers dans tous les styles, quoi. Tu
ouais,
vois.
Il avait un côté faiseur aussi, hein, ça c'est sûr.
Ouais, il avait un côté faiseur. Mais alors, moi, c'est ça aussi qui m'étonne, c'est que, enfin, que j'aime beaucoup dans le film, c'est le rythme du film. C'est-à-dire, malgré ce côté étude de caractère, ce côté, comme on disait, vision comportementaliste, là au début il prend 15 minutes pour montrer l'action. Après, c'est un film qui est tout le temps comme ça. Comme
ouais, ça. Ouais, non, ça c'est vrai.
Dans son montage d'ailleurs, qu'a fait Michael Winner, t'as un côté. Sous pseudo. Les scènes se terminent et s'ouvrent par des claquements de portes, des ouvertures de portes. Les trucs vont vite et on perd pas de temps et les idées sont emballées dans une scène.
Ouais, voilà, c'est les meilleurs films, en fait, ceux-là. C'est-à-dire les films qui peuvent avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire, en gros, l'idée d'être quand même dynamique et tout. Et tout en fait, ne perdant jamais de vue, en gros, qu'ils sont en train de raconter un récit humain. Mmh. Et donc, en fait, un récit humain, psychologique, émotionnel, etc., etc. Et on en revient donc à ce que je parlais de la scène finale, où en gros, après avoir mener ce contrat, un peu plus allemand que d'habitude, en fait, en gros, le personnage de et on le comprend assez vite d'ailleurs, en fait, avant même, c'est même établi avant comment dire la mission à Naples, que Ian Michael Vincent va tuer, en fait, le personnage de Bronson, et pour le tuer, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il le
s'établit et par le personnage principal lui-même, quoi. Il le comprend.
Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, il lui met une espèce de forme de cyanure, de poison, en fait, qui va se diluer dans le vin, parce qu'ils boivent un verre pour célébrer la victoire de leur mission, quoi. Et là, Bronson, avant de mourir, lui dit, mais c'est à cause de ton père, quoi. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que le personnage de Michael Vincent ne savait même pas que c'est Bronson qui avait tué son père. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où tu te dis, je veux dire, on évacue la logique parce que ça pourrait être un enjeu pour le personnage de Jean-Michel Vincent, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, on a affaire quand même à deux personnages totalement déshumanisés. Et ça, c'est et là où c'est très intéressant, c'est comment en fait tu vas d'un seul coup montrer l'émotion à travers ces personnages-là, quoi. Tu
vois, parce que c'est un truc où en fait on a beau partir en mission à Naples avec Branson, qui sait, qui a découvert les dossiers, comme quoi l'organisation a du coup contacté, c'est un coup, hein, ouais. a contacté son élève pour mettre un contrat sur la tête du personnage de Branson. Il part à Naples avec cette idée-là, donc on part, on les suit à Naples avec cette idée-là. En se disant, ben, peut-être Branson, comment ça se fait qu'il arrête pas la collaboration directe, tu vois, mais il accepte d'aller dans cette mission. Et puis t'as à un moment la scène avec les plongeurs sur le bateau où il manque de se faire tuer, Branson, et où Ian Michael Vincent le sauve, tu vois, en tirant sur le type, quoi. Et où là tu te dis, et peut-être effectivement, alors dans le cadre d'une histoire d'amour homosexuel, ça serait encore mieux passé, mais où en tout cas tu te dis, peut-être Ian Michael Vincent ne va pas le tuer, tu vois, quoi. Et ça se joue là-dessus tout le temps dans cette scène, quoi, dans ce segment du film, quoi, où tu te dis qu'est-ce qui va arriver finalement. Est-ce que le côté cynique du personnage de Ian Michael Vincent va tomber et qui va se prendre d'affection pour ce type-là? Bon, bah, c'est pas le cas à la fin, quoi. Donc c'est un film assez.
Non, c'est même j'ai envie de dire en gros c'est presque la meilleure logique, parce que en réalité il est arrivé au niveau de Branson. C'est-à-dire que en fait c'est cette espèce de pseudo passation de pouvoir, si ce n'est que bon, t'as la petite pirouette finale, hein, évidemment, avec Branson qui avait prévu le coup et qui fait sauter sa caisse quand il est de retour au pays, quoi. Donc ça, c'est vraiment là, c'est 10 secondes, hein, c'est vraiment une scène que tu pourras enlever, c'est hyper brut de décoffrage, c'est vraiment la pirouette finale pour dire Branson a gagné, quoi. Il avait le dessus, tu vois, de tout le temps, en fait. Il savait que ça allait lui arriver, il connaît le milieu dans lequel il évolue, quoi. Mais bon, sorti de ça, en fait, t'as quand même cette espèce de notion où, oui, le personnage, en fait, de Ian Michael Vincent est arrivé presque au même niveau. Bon, il avait les attributs pour ça, hein, mais presque arrivé au même niveau de déshumanisation et de, comment dire, de professionnalisme méthodique, en fait. Parce que, carrément, enfin, la façon dont il le tue, il y a toujours la même idée de ne pas saloper le travail, de ne pas faire ça, tu vois, comme des bourrins, et de masquer la mort, quoi.
Bah, c'est-à-dire, t'as ce mojo qui le guide, là, qui formule à un moment, clairement, qui il le dit à Ian Michael Vincent, il dit, il faut rester en dehors de tout et se débrouiller soi-même. Et en fait, c'est précisément, tu te dis, à un moment dans le film, tu te dis, c'est précisément parce qu'il a contrevenu à cette règle morale qui s'est fixée, qu'il va chuter, puisqu'il n'est pas resté en dehors de tout avec ce jeune-là. Il s'est pas débrouillé par lui-même puisqu'il a pris un associé, tu vois. Et donc tu te dis, bah, le fait d'avoir dérogé à ça va entraîner sa chute, hein. Et malgré ça, il y a sur la fin, il y a une sorte de maintien du contrôle dans la chute, tu vois, c'est-à-dire le gars finalement, in fine, il a maintenu cette règle morale pour se réapproprier la situation, même s'il est déjà mort, quand même, tu vois. Donc il y a quelque chose d'un peu touchant là-dessus, mais effectivement le personnage de Ian Michael Vincent finit dans la conclusion par vers la fin du film par remplacer littéralement le personnage principal. C'était son but, hein, de le remplacer. T'as toujours dans cette vision comportementaliste, t'as un petit gimmick qui signifie ça de manière très efficace, c'est le fait qu'il reprend sa boule de cire, tu sais, qu'il malaxe. Moi j'aime bien parce que c'est le genre de gimmick typique que tu peux mettre à l'écriture pour définir un personnage, tu vois, visuellement. Et c'est très bien utilisé dans le film. Je me rappelle la première fois qu'on le voit, c'est la scène d'assassinat inaugurale, là, qui dure 15 minutes, où en fait il utilise ça. Branson s'assoit et attend que sa victime rentre pour la tuer, tu vois. Et il malaxe la boule. C'est le jour, on voit la fenêtre, tu vois. Et t'as un raccord sur la. Il continue de malaxer la boule, mais la nuit est tombée, tu vois. Donc il y a une ellipse de temps qui est passée où le mec il a malaxé ça pendant tout le truc, quoi, tu vois. Et à la fin, effectivement, ils le mettent dans la main de Ian Michael Vincent. Je crois qu'il est dans le salon d'ailleurs de Branson. Ça doit être avant de. Ouais, c'est peut-être avant de partir à Naples ou je sais plus. Mais oui, là, il a pris les attributs du personnage, quoi. Donc c'est ça que ça raconte au bout du compte, comment quelqu'un se fait remplacer, quoi.
Alors un petit mot sur le remake de merde, faut le dire, hein, parce que c'est un remake de merde.
De Simon West,
The Mechanic, donc le flingueur aussi en français, je sais plus.
Je crois que ça s'appelait le flingueur The Mechanic ou The Mechanic le flingueur.
Ouais, bon, voilà. Avec Jason Statham. Mm. Et Ben Foster dans le rôle du jeune tueur, quoi.
Et le scénario écrit par le même scénariste.
Ah oui.
Que l'original.
Oui, mais
c'est
bon,
pas le cas pour le.
Je crois que c'est parce qu'en fait ils ont repris le truc et qu'ils.
Non, il a écrit le scénario.
Ah, enfin, c'est une honte le film.
C'est son dernier boulot, quoi.
Ah ouais. Parce
qu'il est mort après.
Il est mort après. Mmh. C'est une grosse honte, hein, ce film-là, parce que justement, en fait, tout ce qu'on a discuté là, c'est là où ces films-là sont précieux aussi quelque part. En fait, ces remakes-là, en fait, quand tu les vois, c'est que en fait, ils te permettent au moins de dire, bah, en fait, si tu fais un comparatif entre les deux films, bah, tu vois tout de suite en fait la valeur de l'original et pas la valeur que artistique au sens, tu vois. C'est un film qui est mieux fait, mieux monté, tout ce que tu veux, etc., etc. Parce que clairement, hein, comme tu l'as précisé, le Flingueur, l'original, c'est un film de son époque, et celui-là, c'est aussi un film de son époque. Mais justement, en fait, quand tu compares les deux époques, par exemple, la scène de la prostituée, bah, c'est une prostituée dans le film, mais elle adore baiser avec Jason Statham, mais finalement, c'est sa copine, tu vois. Donc tout va bien. Et là, tu te dis, mais en fait, vous avez absolument pas compris la scène du film original, quoi. T'as ce premier truc en ligne de compte. T'as aussi cette espèce de notion, on en parlait hors antenne tous les deux, comment dire, avant d'enregistrer, on parlait de cette idée que bah, c'était quand même un trope, en fait, dans les années 70-80, début des années 80, on va dire, de tuer le personnage principal dans un film d'action, quoi. Bebel l'a fait, Delon l'a fait, Bronson l'a fait, voilà. Là, en fait, dans l'original, dans le remake, je veux dire, pardon, en fait, t'as Jason Statham qui, en fait, met en scène sa mort. Et en gros, en fait, je t'avais bien eu. Et en fait, voilà, il passe sous une caisse, il évite le truc, il évite l'explosion, tout va bien. Ouais, génial, c'est Jason Statham, c'est l'homme le plus fort du monde, tu vois. Et le problème, en fait, si tu veux, c'est quand tu mets en parallèle d'où vient le film original. Et ce qu'ils en font avec le remake, tu te dis, mais vous avez absolument, littéralement, rien compris.
Bon, ils en ont fait, voilà. Ils en ont fait une version cool du film, original, qui n'est pas cool.
Ouais, une sous-statamerie, quoi, tu
voilà,
vois.
Voilà, et où, en gros, le personnage se résume à ce qu'il y avait dans le film original déjà, mais qui était le plus peu, le, comment dire, un truc basique, quoi, tu vois, que le film elle arrivait largement à transcender, quoi, tu vois, quoi. C'est cette sorte de MacGyver du crime, quoi, tu vois, quoi. Ils se sont concentrés là-dessus, quoi,
d'ailleurs, il y a des scènes à la James Bond, justement, pour le coup, vraiment beaucoup plus prononcées. Mais ce qui est un peu chiant, en fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, en fait, si tu veux, avec ce genre de remake-là, où tu vois que les mecs, en fait, ils se chient complètement, en fait, à l'idée de prendre des scènes qu'on pourrait qualifier, ou apparemment, ils ont tendance à qualifier, puisqu'ils ne les refont pas, de subversives. Tu vois, c'est que en fait, il a pas cette image-là, Jason Statham de monolithe macho brutal, tu vois, que Bronson a. Alors que parce que bah il fait de l'humour à côté, il se retrouve dans des trucs où il joue un petit
peu.
On va
dire sur que c'est
image.
à l'échelle de notre époque, c'est la version. C'est pas pour rien, je pense que s'il se retrouve dans un film où il reprend le rôle de Bronson, on va dire que c'est le Bronson de notre époque. Chaque mot compte,
que,
quoi.
Oui, mais sauf que justement, la problématique, en fait, là-dedans, c'est qu'il a pas cette image-là, tu vois, aux yeux du public, on va dire, tu vois. Il a pas cette image de macho. Enfin, moi, ce que j'entends par macho, c'est vraiment dans le sens le plus négatif.
Quand même, rouleur de mécanique.
Oui, mais le plus négatif du terme, tu vois. C'est-à-dire que Bronson, il essayait des trucs, en fait, Statham n'essaye pas, justement, tu vois. Je veux dire, et je pense que Statham, le premier, hein, il doit se dire. Mais pourquoi, on parlait, tu sais, on parlait de Louis Leterrier, dans la dernière émission. Et pour le coup, en interview, Louis Leterrier m'avait raconté ça. Il m'avait dit, moi, je rigolais avec Statham parce que j'allais le voir, en fait, en lui tapant sur le côte, en disant, fais le transporteur, en lui disant, tu sais, en fait, le perso du méchant, il veut ton cul. Tu vois, il veut ton cul, en fait. Et ça se voit, hein, la façon dont le méchant joue le rôle dans le transporteur, que c'est la direction d'acteur que lui a donné Leterrier. Et t'as Statham qui disait, mais comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pas du tout. Mais en fait, tu vois, donc voilà. Et là, tu te dis, bon, enfin, ça va, quoi. Tu vois, je veux dire, tranquille, tu vois, personne n'est en train d'attaquer ta virilité. Tu vois, je veux dire, t'es en train de faire du cinéma, c'est un film, tout va bien, tu vois. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, bah non, tu vois, je veux dire, Bronson, lui, il se le permet dans le cinéma, quitte à teinter son image, tu vois. Bon, malheureusement, c'est apparemment pas suffisant pour que ça soit perçu, quoi. Mais voilà, enfin, ces essais-là, dans le remake, tu les as pas du tout, quoi. Tu vois. Donc, il y a ce truc, en fait, qui est un peu, moi, je trouve, c'est-à-dire que ce remake, c'est l'idiot utile. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc qui te permet de regarder, en fait, vous voulez voir un vrai bon film avec ce sujet-là, il y a le film original. Et le film original est vraiment super, quoi. C'est intéressant d'avoir le comparatif, quoi.
Le film
original. J'ai pas vu la suite du remake, par contre.
Ouais, moi non plus. Ouais. Mécanique.
Résurrection.
The Mécanique Résurrection.
Ouais, on va coller deux mots ensemble. Ouais. Même si ça veut rien dire.
Ouais. Mais non. Après, le film de Michael Winner, voilà, je pense que c'est un film si même. Il n'a pas préservé l'intégrité du projet original, est devenu autre chose, tout aussi original et intéressant, avec ce mix de films assez représentatifs de son époque, du réalisateur qui l'a fait, de la star qu'il a incarnée, toi. C'était pas rien ce duo-là, mine de rien, à cette époque-là, et ça allait devenir donc 2 ans après quelque chose d'énorme, quoi, qui allait peut-être quelque part induire aussi leur propre décadence à tous les deux, quoi.
Bah, écoute, t'as fait un très beau, on a fait pour le coup une vidéo, hein, Steroids, c'est toi qui l'as écrite, hein, sur Bronson, quoi.
Et c'est Cédric Fontana qui l'a
monté, voilà. Et en fait, en gros, tu expliques, hein, la subtilité. Larvé d'un film comme Le Justicier dans la ville, le premier, l'original, quoi. Pareil, qui a le droit à un remake de merde aussi, hein, tu vois, avec Bruce Willis, quoi. Mais voilà, donc là, là, effectivement, on va pas forcément se relancer là-dedans, mais c'est vrai que là, c'est la même problématique, c'est dommage. C'est-à-dire que c'est vraiment dommage, en fait, de se dire que les gens ont une image de ces films-là qui n'est pas, en fait, ce que le film est vraiment, en fait, au bout du compte, quoi. Donc, et que c'est important, mine de rien, pour nous en tout cas, de le remettre un petit peu en avant et de préciser pourquoi. Quoi.
Encore une fois, ouais, je pense qu'ils se sont laissés tous les deux, Winner et Bronson, accaparés par, détournés un petit peu par leur propre image qu'ils avaient construite, quoi. Alors, le propre mythe de Bronson, c'était parce qu'encore une fois, c'était des gens qui avaient une relation de travail très forte, quoi. Michael Winner, je me rappelle sur The Mechanic, il racontait cette scène où c'était un des rares, en fait, que Bronson allait voir quand il y avait un problème, quoi. Michael Winner, t'avais une scène de tournage en Italie là pendant la poursuite, là, ils étaient en train de mettre en place la poursuite en bagnole, la flanc de falaise, il y avait sous un tunnel, et donc tous les techniciens étaient en train de mettre en place la scène sur tunnel. Michael Winner racontait qu'il était un peu à l'écart, toi, lui, et que Bronson, qui était là-bas, revient vers lui, vient s'asseoir à côté de lui, et puis lui dit: je vais lui péter la gueule à ce technicien italien de merde, là, tu vois, parce qu'il y avait plein de techniciens italiens qui travaillaient. Et Winner lui dit: calme-toi, Charles, et tout, parce qu'enfin, ces gens-là, on a besoin d'eux, tu vois, ça va être la merde si on se les met à dos, et tout. Et il expliquait que Bronson était quelqu'un de très parano, quoi. Et il disait, Michael Winner, je pense que le technicien italien n'avait rien dit de dommageable, quoi. C'est juste Bronson qui l'a très mal interprété. Bronson, c'était quelqu'un, il disait, spécialement sur ce tournage-là, c'était quelqu'un, le lendemain, il vous chie une pendule sur les notes de téléphone de l'hôtel en disant: non, c'est pas moi qui ai appelé. L'assistant de Michael Winner, il l'accusait d'avoir coupé son café pour qu'il boive moins de café. Enfin, que des trucs comme ça. Et là, donc, il disait, ouais, il y avait cette histoire avec ce technicien. Et je lui dis de se calmer, tu vois, quoi. Et en fait, Bronson, il s'est levé, il est parti, il est retourné dans le tunnel. Et puis là, au bout d'un moment, j'entends une échauffourée, des cris, des trucs comme ça. Et tous les mecs étaient en train de se battre dans le tunnel. Donc, je sais pas, Bronson, on sait pas le fin mot de l'histoire, mais apparemment, il avait déclenché une bagarre générale qui s'est plutôt bien terminée parce que il disait, Winner, que les techniciens étaient sortis du tunnel en se tapant virilement dans le dos, mais ils étaient ensemble pour autant, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'était quelqu'un de difficile à gérer, Bronson.
Ouais, bien sûr.
Et que Winner avait cette connaissance assez fine du personnage pour pouvoir non seulement pas le manipuler, mais travailler avec lui sur un plateau, mais en plus en faire le transformer en une véritable icône de cinéma, ce à quoi The Mechanic a largement participé, quoi.
Et tout ça dans une enveloppe de films d'action. Vraiment, parce que ça, il faut le préciser, c'est un vrai film d'action. C'est-à-dire, c'est quand on dit c'est une étude de caractère, on est parti dans tous ces trucs-là. Oui, il y a les deux, en fait. C'est ça,
ensuite, le truc, en c'est moto, qu'en fait, tu peux de bagnole.
Voilà, arriver là-dedans. C'est-à-dire, ça aurait été un film de Monty Hellman, ça aurait été peut-être justement mieux vu aujourd'hui, quoi. Tu vois, le titre original, français, c'est Macadam à deux voix.
Voilà.
Macadam à deux voix de Monty Hellman. Mais bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de Mechanic, The Flinger, le mec est pas, c'est The Mechanic, le Flinger, on a fait le tour, non?
Ouais, non, encore une fois, film étonnant à redécouvrir.
Sorti en Blu-ray chez Wildside, hein.
Ouais, à l'époque. Surtout chez nous, chez Wildside. Il y a d'ailleurs un interview intéressant de Monty Hellman dessus,
ouais.
Dans les bonus, qui raconte un petit peu comment il a travaillé au début sur le film. Mais voilà, ouais, non, vraiment un excellent film à redécouvrir et franchement qui se regarde de manière très agréable encore aujourd'hui, qui est sans temps mort, qui est riche, qui est mené au pas de charge, voilà, c'est du très bon Bronson.
C'est du très bon Brunson. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci Arnaud Bardas.
Merci à toi Stéphane.
Merci Alain, merci à la merci technique qui est derrière nous et qui nous écoute pendant
sagement.
Sagement pendant que nous sommes en train de, comment dire, de palabrer pendant une heure sur Charles Bronson. Merci à vous tous qui nous suivez. On se retrouve la prochaine fois, Arnaud, n'est-ce pas, avec un autre film, un bon petit film aussi, un film que t'aimes bien. Voilà.
Bronson avec nous.
Bronson avec nous. Allez, à bientôt.